17h30, vous êtes à l'écoute de CKRL et l'émission La vie en BD. Bon, vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour cette nouvelle édition de La vie en BD. Émission, comme à l'habitude, consacrée entièrement à la bande dessinée. On portera un regard d'ailleurs sur deux sorties récentes d'auteurs de Québec, notamment Philippe Girard qui nous a offert tout récemment son dernier-né, La mauvaise fille, chez Glénat Québec. Alors, un récit autour de l'amour, des relations amoureuses, du sentiment amoureux dans la période contemporaine et dans les années 30. Alors, deux regards, deux contextes, un très beau récit d'ailleurs. Donc, on va en parler avec lui tout à l'heure. Il y aura également Michael qui sera de passage, qui a lancé lui aussi tout récemment, c'est du côté de l'école de cirque, son dernier-né également, Circus. C'est dans la lignée de ses bandes dessinées jeunesse. Peut-être avez-vous lu Les nuages, la neige, des beaux volumes, dessins qui est, disons... très coloré notamment, et bien entendu, on est ici dans, à mon sens, le conte, un art qu'il maîtrise bien. Alors, il sera avec nous, d'ailleurs, tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour les entrevues. Côté chronique, on aura Marco Duchesne avec nous également en cours d'émission, qui nous apporte ses propositions ce mois-ci. Et donc, ça, c'est le menu pour aujourd'hui. Voilà. Sinon, petite invitation également qu'on vous lance ce lundi 28 mai, du côté de Philactère sur la rue Saint-Joseph. Vous avez la nouvelle édition, la dernière d'ailleurs pour la saison printanière, des micros ouverts de la BD. Donc, c'est des rencontres que j'ai le plaisir d'organiser avec Anne-Marie Olivier de chez Philactère, avec Frédéric Rondeau de CKRL. Et donc, on propose au public présent, dans le fond, d'aller à la découverte du parcours de lecteur ou de certains intérêts de lecteur de nos invités, de nos conférenciers invités. Donc, il y a eu des auteurs BD qui sont venus faire leur tour, notamment Philippe Girard qui nous a parlé de Polar, Kellen Johnson qui nous a parlé de BD autobiographique et également JF qui nous a parlé de bande dessinée de science-fiction et de leur parcours un peu à l'intérieur de ça. Et ce lundi, eh bien, on sort un peu de la sphère auteur BD pour aller vers un cinéaste. Il s'agit d'Eddie 69 de la formation Philactère Cola. C'est également à lui à qui on doit la série Tom et ses chums. Alors lui va nous entraîner aussi dans son parcours de lecteur. Il nous a dit, regarde, je vais parler des textes que j'ai écrits de mes BD, un peu de mon parcours en tant que BDiste lecteur entre la BD et le cinéma, également porter un regard sur l'évolution des comics américains et du comic book en général depuis que j'en lis, donc c'est-à-dire depuis très très longtemps, du moins dans sa temporalité à lui, évidemment. Alors voilà, donc c'est une invitation qu'on vous lance, c'est ce lundi, c'est à compter de 18h30 et c'est gratuit, donc c'est vraiment une occasion de venir jaser BD au bout du compte. Et c'était là un peu de cette volonté-là, donc cette idée d'aller partager des références, d'aller partager des bons coups côté lecture qu'on a fait de manière occasionnelle, de manière régulière. Et donc, c'est un peu ces rencontres-là qui sont devenues cette excuse, justement, pour parler de bande dessinée, mais sous cet angle-là. Alors, je le rappelle, c'est ce lundi 28 mai à compter de 18h30, et c'est chez Philactère. We'll be right back. vous entendez un petit extrait de notre sélection musicale pour cette semaine. Je l'ai choisi parce que j'aimais le nom du groupe. Ça arrive à l'occasion, des choses comme ça. Alors, il s'agit de la formation Ninja Academy, donc l'Académie des Ninjas, avec leur premier album éponyme. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait qui s'appelle Psst, 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 et on en entendra évidemment d'autres au cours de cette édition de La Vie en BD. Petit commentaire au passage sur un livre que j'ai reçu plus ou moins récemment fait, que je voulais vous mentionner dès que j'en aurai la possibilité. Genre de récit, en fait, qu'on reçoit, on est un peu sceptique peut-être de par le sujet, on se demande un peu comment ça va sortir, comment ça va se rendre, comment ça va passer en mode BD, parce que en même temps, même dans n'importe quel autre médium, on se poserait un peu ces mêmes questions-là. Il s'agit ici de réflexions autour du deuil, autour du cancer, autour de la mort, et donc effectivement, on pourrait dériver vers un sentiment mièvre. On pourrait dériver aussi vers des manières de présenter ça qui ne seraient pas nécessairement à propos. Donc, c'est le genre de sujet pour lequel, du moins, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écueils. Et dans ce cas-ci, ben, l'auteur Judith Vanisthan-Dael réussit à éviter, à mon sens, l'essentiel, voire l'ensemble de ces écueils-là dans son livre « David, les femmes et la mort ». Ça, c'est chez Lombard. Donc David, en fait, qui est un type, bon, dans la force de l'âge, qui est entouré de femmes, donc ses filles, son épouse, sa seconde épouse et sa deuxième fille, donc vraiment c'est l'univers qui gravite un peu autour de lui, et évidemment donc la mort qui le guette puisqu'il a le cancer. Il décide initialement de garder ça pour lui, finalement, puisque la situation s'aggrave, il est obligé d'aborder la question avec ses épouses, avec ses filles qui sont également des âges bien différents, et chacune d'entre elles ont également une relation bien différente avec la mort et avec, au bout du compte, ce que va en venir aussi à représenter David dans leur vie à elles, dans la mesure où justement ils ont à l'accompagner à faire ce chemin extrêmement difficile avec lui, et à être à ses côtés, donc pour lui permettre de passer des derniers moments les plus agréables possibles. Mais évidemment, on imagine la difficulté qu'on a à passer aussi ces moments, sachant que ce sont les derniers, sachant que le chemin va bientôt se terminer. Alors, un dessin qui est, disons, très très dessiné, je pense que c'est le terme qui me vient en tête. Donc des traits qui sont assez apparents, donc on a l'impression que c'est un peu sketchy, si on me permet le terme, et ça sert bien ce récit là qui, donc, un dessin qui est beau, qui rend une certaine douceur dans le fond, qui est inhérente à ce que propose donc Vanisthan-Dael. Et surtout, ce qu'on retient, à mon sens, c'est la structure de ce récit-là, donc où on accompagne de chapitre en chapitre chacune de ces femmes-là et David lui-même, donc sur leur situation, sur la maladie, sur le deuil qui est en cours, au bout du compte, autour de tout ça. Et donc, le récit lui progresse, donc c'est pas des retours dans le temps, on fait pas donc un même événement de cinq points de vue, c'est vraiment simplement l'histoire qui évolue et nous qui changeons de point de vue principal pour comprendre, pour saisir ce que vivent ces femmes et pour le comprendre au moment où c'est opportun, au moment où eux vivent une situation qui est peut-être névralgique, peut-être dans leur évolution, dans leur perspective. Alors ça là-dessus, c'est un choix qui m'apparaît extrêmement judicieux. En fait, ça permet de brosser des beaux portraits de femmes. Ça permet évidemment de brosser aussi le portrait de la maladie, mais dans une perspective beaucoup plus complète, puisqu'on a donc cette pluralité de points de vue qui nous permet aussi de bien comprendre, bien saisir ce qui se passe exactement dans ce contexte-là. Donc le découpage est intelligent, le dessin, comme je le disais tout à l'heure, qui est agréable, qui est doux, dessiné, aquarellé, peut-être qu'on pourra ressortir aussi, mais bref, tout ça est très sensible comme récit. Et je reviens un peu à ce que je disais, à mon hésitation au départ, donc avec ces écueils, et c'est cette sensibilité-là dans le traitement qui permet donc à l'auteur de les éviter, ces écueils-là, et au contraire de nous proposer un parcours qui est tendre, qui est doux, qui est émouvant, qui est pas nécessairement facile, mais par contre qui est fait de manière respectueuse aussi, je pense, de cette situation-là. Donc, si vous avez vécu des éléments similaires, je pense que c'est le genre de texte qui pourrait vous, dans lequel vous pourriez vous reconnaître. Et sinon, ben c'est un regard sur justement ce type de situation-là. C'est une situation très personnelle, mais évidemment, comme on dit souvent, à mon sens, c'est dans le personnel qu'on fait aussi l'universel. Alors, ça s'appelle David, les femmes et la mort. Donc, je le rappelle, c'est de Judith Vanissetendael et c'est chez Le Lombard. Et voilà un autre extrait de Ninja Academy avec Blue Rondo à la Ninja. Et ben, en fait, une musique peut-être qui pourrait scier à un univers d'acrobate, un univers de cirque. Et on plonge justement, nous, dans cet univers en compagnie de Michael. On plonge doublement puisqu'il y a cet album Circus donc qui vient d'être publié chez Clair de Lune. Et on s'y lance puisque l'auteur est avec nous en studio pour en parler. Michael, bonjour.
Bonjour.
Alors, lancement la semaine dernière, d'ailleurs, à l'école de cirque, qui est un lieu, on l'imagine, tout désigné pour lancer un livre comme celui-là. Et de manière générale, ça s'est bien passé, d'ailleurs, ce lancement-là?
Oui, c'était vraiment une très belle soirée. On a fait ça en Formule 5 à 7 avec la librairie Phylactère. Et au sein de l'école de cirque, c'est un endroit vraiment magique. Une ancienne église reconvertie en école de cirque. Et on avait vu de là où on faisait le lancement sur tous les jeunes en formation à l'école de cirque. Ils nous faisaient des numéros, des répétitions sur des prochains spectacles. C'était vraiment une belle soirée.
Et nécessairement, en fait, le lieu, je disais, c'est pas choisi au hasard. Ça s'appelle Circus. Et essentiellement, ce livre-là nous raconte votre vision de la naissance du cirque.
Oui, c'est ça. En arrivant au Québec, j'ai été sublimé, on va dire, par la découverte du Cirque du Soleil, que je connaissais malheureusement pas habitant en Europe et aux Antilles auparavant. Et puis, je suis vraiment sorti de mon premier spectacle du Cirque du Soleil avec un gros « wa ». Et puis, c'était le début. Je devais faire une histoire sur le thème du chocolat avec Claire de Lune. Et puis, j'ai dit à l'éditeur, non, j'ai une histoire sur le cirque là qui vient de mûrir là. Et c'est arrivé comme ça. Et puis j'avais déjà connu l'école de cirque parce que mes enfants la fréquentaient depuis quelques années. Et vraiment, c'était un lieu vraiment magique. Donc en sortant une BD sur le cirque et en connaissant l'existence de celui-là à Québec, je n'ai pu que joindre les deux pour faire mon lancement.
Et l'élément, l'adjectif magique, je pense, est important aussi parce que c'est toujours un peu, c'est dans le récit que vous nous proposez, c'est d'essayer de trouver justement la magie de l'univers, dans le fond, que vous créez, de la discipline, si on peut dire, aussi là-dedans pour créer un certain émerveillement aussi, j'imagine, chez le lecteur.
Bien, mon histoire, c'est avant tout un conte, et donc dans tous les contes, l'un des fils rouges des contes, c'est surtout l'aspect de la magie. Il y a toujours des objets magiques, et là en fait la magie dans mon histoire de Circus, je l'ai intégrée avec les saltimbanques, qui viennent d'un autre monde, un monde un peu parallèle au nôtre, et qui se sont perdus dans notre monde. Et la magie, c'est que eux, en fait, ils sont nés pour la famille des échassiers, ils sont tous nés avec des grandes jambes. Les cracheurs de feu crachent du feu, tout simplement, comme des dragons, par exemple. Et les contorsionnistes marchent sur des mains, comme nous, on apprend à marcher sur des mains. Donc c'est ce petit côté magique que j'ai introduit dans cette histoire.
Et pour situer aussi, en fait, je mentionnais en introduction d'émission les nuages, la neige, un peu dans la continuité, dans le fond, de ces précédentes BD jeunesse-là.
Oui, c'est la même collection, donc en gardant l'esprit du conte pour le fil rouge de cette de cette série-là chez Claire de Lune. Et puis effectivement, il y a toujours un petit côté magique dans la neige. Eh bien, c'est le roi de l'hiver qui amène la neige dans un pays qui n'en avait jamais connu auparavant. Et puis dans les nuages, eh bien, ça se passe à une époque où autrefois tous les nuages étaient fabriqués à la main dans des petites nuageries artisanales. Donc c'est là aussi le côté magique.
Et ce côté-là, donc l'idée, est-ce que c'était un peu l'idée de départ, même pour Circus, on parlait de cet univers parallèle. Est-ce que c'est de là qu'est venue l'idée justement de faire cette histoire-là, ou c'est venu du fait que vous aviez envie simplement de faire quelque chose sur le cirque?
Non, c'est vrai que le cirque, c'est un peu comme... C'est dans l'imaginaire enfantin, c'est un peu comme les pirates ou les dinosaures, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et puis c'est ça, en ressortant d'un spectacle du Cirque du Soleil, je me suis dit, mais ces gens-là, ils volent vraiment, les acrobates, ils volent vraiment, les cracheurs de feu, on a l'impression qu'ils font ça tellement naturel. Je me suis dit, mais pourquoi ne seraient-ils pas nés tous comme ça? Dire qu'ils marchent sur un fil, mais avec une notion d'équilibre que nous autres simples mortels, nous n'avons pas. Et comme s'ils venaient d'un autre monde, ils avaient une capacité magique que nous n'avons pas. Donc c'est de là que c'est parti. Je me suis dit, et voilà. Et par exemple, leur maquillage, ce sont pas des maquillages, ce sont des simples taches de naissance, par exemple.
Et ça fait un choc, justement, de rencontre où la petite fille, à un moment donné, dit, ben, regardez, pouvez-vous faire les tours, me montrer ce que vous faisiez? Puis là, c'est, voyons, on fait pas de tours, nous, on existe, tout ça. Simplement, puis découvre un peu cette vision qu'on a, nous, du spectacle, que eux n'ont pas du tout, finalement.
Et exactement, oui, eux, ils marchent sur dans la famille des contorsionnistes, de père en fils et de mère en fille. On marche toujours sur les mains ou à quatre pattes à l'envers.
On ne se pose pas la question.
On ne se pose pas la question, et puis c'est pour ça, alors que la petite fille qui vient de notre monde, du monde humain, elle découvre ça pour la première fois, et elle se dit, ouais, c'est extraordinaire, pour elle, c'est comme de la magie, comme un spectacle.
Et ça devenait nécessaire au départ, c'était justement l'idée de rencontre entre ces deux mondes-là, pour mettre de l'avant justement le côté magique, mais faut s'ancrer, j'imagine, dans le réalisme, dans le monde qu'on connaît, nous, qu'on vit, nous.
Ben oui, parce que donc le je voulais parler de ce conte-là, le gros thème sous-jacent, c'est la capacité à l'émerveillement qu'ont naturellement les enfants, et puis qui, malheureusement, plus on grandit, ben, plus on le perd, plus ou moins chez certaines personnes. Là, effectivement, la mère du personnage principale, qui s'appelle Myrtille, une petite fille, elle travaille tellement qu'elle a perdu, elle s'émerveille plus de rien. Un papillon qui vole, c'est d'une banalité à mourir, alors que pour la petite Myrtille, tout de suite, c'est source de jeu. Donc elle s'émerveille d'un rien, les adultes beaucoup moins. En plus, sa mère travaille dans une maison d'accueil pour aînés, donc là, les personnes âgées, bah, eux, ils s'émerveillent plus non plus, parce que bah, ils ont trop mal à leur pauvre rhumatisme, leurs jambes leur font mal, donc ils s'émerveillent plus non plus. Donc je voulais mettre en confrontation aussi le monde des enfants qui s'émerveille de tout, et puis celui des adultes qui l'oublie. Donc c'était pour leur rappeler un petit peu, c'était peut-être une petite piqûre de rappel qu'il faut pas toujours être
rationnel.
Oui, rationnel. Et puis il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux, de regarder un petit peu au-delà du métro boulot dodo, en fait.
et même, en fait, parce qu'on se rend compte aussi que ça compte beaucoup pour la petite fille qui, pour le plaisir de pouvoir se faire conter une histoire, elle est prête à s'enfoncer dans la forêt, aller chercher des baies, rendre service, dans le fond, elle est prête à faire beaucoup aussi pour pouvoir s'émerveiller, pour avoir accès à des histoires que d'autres personnages promettent de lui compter.
Oui, parce que son objectif à elle, elle adore qu'on lui raconte des histoires, et puis celui qui lui raconte des histoires habituellement, c'est le capitaine, qui est une personne âgée, qui fait partie de cette maison d'accueil pour aînés. Simplement, le capitaine, il a vraiment trop trop mal à ses pauvres articulations, ce qui fait que il a pas du tout le goût de lui raconter une histoire, et elle est prête à tout pour le soulager. C'est comme son problème à lui, au capitaine, c'est qu'il a trop mal à ses articulations, puis qu'elle découvre que ces gens du cirque, en faisant un spectacle, les ils peuvent guérir tous les maux, puisqu'on s'oublie dans la contemplation de ces tours de magique de cirque. Et elle a tout de suite l'idée d'amener le capitaine voir ces saltimbanques, pour que, en les voyant faire leur spectacle, eh bien, il ait plus mal à ses articulations et qu'il puisse enfin lui raconter une histoire.
Et ça, c'est vraiment l'esprit du livre, c'est l'esprit du récit qu'on vous présente, évidemment. Et tout ça, faut se le figurer aussi. D'abord, dessiner avec des couleurs très très coloré, au bout du compte, je veux dire, c'est des couleurs très 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 frappantes, c'est une pluie de couleurs, je veux dire, quand on ouvre un peu comme la neige et un peu comme les nuages aussi, c'est
Oui, même si là je suis allé sur plusieurs thèmes. Il y a comme des scènes qui se passent de nuit, des scènes qui se passent dans la forêt, des scènes qui se passent dans le village. Donc en fait chaque scène a vraiment un code couleur bien particulier, alors que dans la neige et les nuages j'avais un code couleur global pour l'ensemble de l'album. Donc, ce qui fait que c'est effectivement dans celui-ci il y a encore plus de diversité colorée. Mmh. Et puis c'est quand même ma 13e bande dessinée en jeunesse, donc c'est quand même un aboutissement aussi maintenant de ces 11-12 dernières années passées à travailler pour la jeunesse. Bien à force le métier commence à rentrer, et puis là c'est vraiment un gros travail d'aboutissement. En fait c'est ma BD la plus aboutie, je pense, en jeunesse.
Et justement, qu'est-ce qui fait aussi le défi dans l'écriture et dans le dessin pour la jeunesse? Comment on aborde ça? Est-ce que on a un peu les mêmes préoccupations que si on fait de la BD ado-adulte, ou est-ce qu'il y a une préoccupation particulière, sachant que c'est un public aussi qui a ses particularités?
Exactement. Le gros risque quand on fait de la jeunesse, c'est de prendre les enfants pour des idiots, ce que je veux surtout pas, en disant oui, on va mettre des belles couleurs, deux trois gags rigolos, et puis ça va faire la job. Je trouve que c'est vraiment malheureusement. C'est ce qu'on voit dans certaines productions, aussi bien en bande dessinée qu'au cinéma. Et moi, j'essaye d'avoir un discours vraiment basé sur le conte traditionnel, donc en racontant des choses aux enfants. Il y a plusieurs thèmes, il y a un thème principal dans mes histoires et plusieurs sous-thèmes que l'enfant va capter en fonction de son âge, en fonction de son vécu, et surtout des thèmes bien contemporains. Mm-hmm. Si on prend les contes traditionnels, il y a des choses, on parle de la mort, on parle de la séparation, on parle de l'isolement. Donc c'est des thèmes très importants, et moi j'ai plusieurs sous-thèmes comme ça que dans mes histoires. Et puis le tout avec donc ça c'est la base de l'histoire, ce sont les fondations. Et puis j'essaye d'avoir un packaging beau et agréable à l'œil, mais aussi bien pour les adultes que pour les enfants, parce que j'essaie d'ailleurs d'avoir plusieurs niveaux de lecture. J'essaie d'avoir un niveau de lecture pour les enfants, mais aussi les parents. C'est vraiment une bande dessinée familiale.
Oui, ben en fait, qu'on peut soit décider justement de lire à l'enfant, soit qu'on lit, qu'on laisse notre enfant lire, et ensuite qu'il y a de quoi discuter aussi, il y a de quoi échanger autour de ça. La BD ne se termine pas nécessairement avec la fin de la BD non plus. Il y a un dialogue qui peut... Pas un dialogue moralisateur, mais il y a un échange qui peut naître à partir de cet objet-là, à partir de ce récit-là.
Oui, puis tous mes récits, on revient pas au point... On revient pas au point de départ, c'est qu'on va de l'avant. Mm-hmm. On va de l'avant. Là effectivement, je veux pas.
Non, mais on peut dire que les personnages évoluent, apprennent, grandissent, etc.
Exactement. Donc on revient pas tout simplement au point de départ. C'est pas l'appel de l'aventure. On part faire une aventure, puis on revient, puis c'est tout. Point. Non, on revient pas forcément à son point de départ. On va toujours de l'avant. C'est un peu la façon de narrative qu'on peut retrouver plutôt en Asie, au Japon par exemple. C'est vrai que c'est moins commun en Occident, mais c'est cette façon toujours d'aller de l'avant.
Oui, puis on le voit en fait avec des récits, on pense par exemple à Mon voisin Totoro ou des choses comme ça, où il n'y a pas de thématique qui ne peut pas être abordée. Il s'agit de bien l'aborder et de s'assurer justement, comme vous dites, que les personnages vont quelque part, et dans le fond là on a du ressenti, on a du tridimensionnel, et l'enfant le reçoit aussi, et le parent le reçoit, comme vous disiez. Puis...
Exactement, le but toujours c'est de créer de l'émotion en fait, et de centrer sur les personnages. Plus les personnages auront rencontreront des obstacles, ce qui va faire naître de l'émotion, du conflit, des obstacles vont faire naître de l'émotion, et puis c'est là où le public embarquera ou pas.
Et dans Circus aussi, mentionnons-le, c'est quoi, à peu près 17 personnages à créer pour ce récit-là, donc quand même une belle galerie aussi que vous avez eu à imaginer en faisant la création de Circus.
Oui, en fait, dans cette collection chez Claire de Lune, à chaque fois, je pars, ce sont des histoires uniques, et c'est pas une série, donc à chaque fois, je dois repartir sur un nouveau personnage principal et tous les personnages secondaires. Effectivement, ça me demande beaucoup de recherches, parce que là, il me fallait 6 personnages âgés, chacun avec leurs caractéristiques. Il me fallait la mère de la petite fille, il me fallait 5 saltimbanques, pas évident à dire, 5 saltimbanques, et puis tout un décor, le design de la roule, du chapiteau, de la forêt. Donc et à chaque fois je change, je n'utilise pas les mêmes arbres que j'avais utilisés auparavant, les mêmes maisons. Donc c'est vrai que j'ai un gros travail préparatoire à faire avec ça.
et on découvre justement le résultat de ce travail préparatoire-là sur papier, donc avec Circus, qui est disponible donc chez Clair de Lune, qui a été lancé la semaine dernière. Et Michael, en terminant, des projets à venir, j'ai cru lire entre les branches qu'il y avait un gros projet qui s'en venait, qu'on ne fait pas dévoiler entièrement. Là.
Disons que déjà en jeunesse, à la fin de l'année, j'aurai Félix et la case hurlante, qui est le deuxième tome des aventures du petit Félix, qui est un conte antillais que j'ai écrit et mis en image. J'ai également suite et fin à la fin de l'année, tome 2 suite et fin de Rapa Nui, qui est un diptyque avec le dessin de Fabrice Rousseau, qui a terminé les dessins, donc ça part chez le coloriste et ça sortira pour la rentrée octobre à peu près. Et puis présentement, effectivement, là, je viens de signer chez Glénat pour une histoire en trois tomes, une histoire complète en trois tomes. Donc j'ai commencé les premières pages cette semaine. Je délaisse un petit peu la jeunesse pour ne me consacrer qu'au dessin et à la couleur, parce que c'est un récit adulte assez sombre. Donc, sur un western fantastique avec un français au scénario.
Alors on découvrira un autre visage de votre trait très bientôt. Michael, d'ici là, donc je le rappelle, Circus chez Clair de Lune, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle que vous pouvez visiter le blog de l'émission. Enfin, il y en a deux. Il y a lavieenbd.wordpress.com qui est là où vous allez pouvoir retrouver des podcasts et autres. Également, sur ce blog-là, il y a un lien qui vous amènera vers le blog de l'émission sur voir.ca. Voilà. Alors, pas mal de trucs sur le web. On fait une petite mention au passage. En fait, je vais parler du tome 2 l'année dernière et Trondheim qui reste marathonien dans sa rédaction. Son travail d'auteur. Troisième tome, fin du premier cycle, nous dit-on, de la série Ralph Azam, Noirs sont les étoiles. Et on avait dit au deuxième tome qu'on avait l'impression que la série prenait un peu son élan. Reste que c'est un peu une série où on a des arrêts et des lancers, arrêts, lancés. C'est un peu la même chose avec le tome 3, donc on revient un peu sur ce qu'on a développé. On fait une petite pause aussi. Donc c'est un peu des faux sprints, si on peut dire. C'est comme ça que je perçois un peu la structure. Reste que je mentionnais, et on peut pas passer à côté donc de la série Donjon. Ça nous rappelle beaucoup cet univers-là, donc pour ceux qui ont envie d'avoir un autre regard, mais autour d'un même trait graphique, d'un même style humoristique, sans être le même univers, sans être les mêmes personnages, ça devient quand même une option assez agréable. Ralph Azam, qui est un super-héros, mais qui n'est pas le super-héros typique, qui est moche, qui est maigrelet, qui a pas vraiment d'humanité, qui est doué pour s'attirer des ennuis, mais qui est doté également d'incroyables pouvoirs, et donc c'est vraiment une quête qu'on nous propose et un troisième tome qui est dans la lignée du deuxième, si jamais la chose vous intéresse. Ça, c'est donc chez Dupuis, si je me trompe pas. Et sinon, mention passage rapide aussi au Lombard, Torgal, les mondes de Torgal, Chris de Valnard, qui est sorti tout récemment après Louvre l'automne dernier. Ben là, on nous revient avec l'autre spin-off de la série Torgal. Donc, Chris de Valnard, dont on continue de construire un peu l'origine, l'évolution. Dans ce cas-ci, on revient à l'adolescence, on pourrait dire, de ce personnage-là et ses premières forays dans le massacre vers le sang. Donc, elle qui n'était qu'une voleuse, comment elle est devenue une guerrière un peu sans morale. Donc, c'est un récit qui est pas déplaisant, mais comparativement à Louvre, je trouve qu'il y a peut-être un peu moins de promesses qui est laissée dans cet univers-là en termes de potentiel. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui fait qu'on... on accroche moins que dans d'autres récits de l'univers de Thorgal. Donc techniquement, il est réussi, mais il y a une lassitude qu'on ressent face à ça que j'ai pas arrivé à bien expliquer, à bien percevoir. Mais peut-être qu'on a l'impression que cela n'apporte rien de neuf à l'univers de Thorgal comparativement aux récits précédents de ces mondes-là qui, eux, apportaient à tout le moins leur participation à cet échafaudage. Alors voilà, réflexion au passage. Donc c'est un scénario de Yves Saint et un dessin de Giulio De Vita. C'est au Lombard, donc les mondes de Thorgal, Chris de Valnor, la vraie sentence des Valkyries. On prend une courte pause, au retour Philippe Girard et Marco Duchesne.
Explosion imminent. Evacuate the facility immediately.
Les jeudis soirs, écoutez CKRL, 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel.
Today's security code is 5334118.
Mezzanine, seulement au 89.1.
La balade des gens heureux.
Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous.
La balade des gens heureux.
J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL,
c'est la meilleure au monde.
Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL,
coule bien en bouche.
Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime
des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons.
Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière La CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 500 3e Avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien, vous pouvez aussi la savourer au Bal du Lézard ou au Bar Le Sacrilège. De toute façon, la CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi.
C'est KRL.
À Québec.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e Avenue Limoilou. Lebaldulézard.com.
Toujours à l'écoute de La Vie en BD et plusieurs volumes qui ont été lancés évidemment au cours du mois d'avril et au cours du mois de mai des auteurs de Québec notamment qui nous ont offert quelques nouvelles sorties. On a parlé à Michael tout à l'heure. Il y a un autre auteur qui nous a offert tout récemment donc un nouvel opus. Il s'agit de Philippe Girard avec son album La Mauvaise Fille chez Glénat Québec. Il est avec nous en studio. Bonjour.
Salut.
Alors La Mauvaise Fille, en fait, après Rewind et La Visite des Morts, notamment, impression qu'on revient à une histoire qui est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime pour vous?
Je sais pas, La Visite des Morts, c'est probablement le livre le plus personnel que j'ai jamais fait, je pense, même si ça se présentait comme une fiction. Puis tu sais, même les fictions, dans le fond, on est toujours un peu caché derrière les personnages, mais c'est vrai, il y a une partie de La Mauvaise Fille où je me mets en scène pour pour introduire, dans le fond, une autre histoire. Là. Donc, oui, peut-être que de cet angle-là, c'est vrai que c'est un récit plus personnel.
Oui, parce qu'en même temps aussi, je le perçois un peu, de ce que j'en ai compris, c'est un peu un hommage à votre grand-mère.
C'est carrément un hommage à ma grand-mère, oui, exactement, oui.
Donc, qu'est-ce que vous a amené un peu vers cette piste-là? Parce qu'en même temps, bon, il y a le récit, mais parlons peut-être un peu justement de l'idée, parce qu'il est venu de ce journal qu'on retrouve dans La Mauvaise Fille et qui existe vraiment, que vous avez lu et qui vous a inspiré au bout du compte, cette BD-là.
Ben, en fait, c'est une vraie coïncidence qui m'a amené à faire ça. Il y a 2 ans, je regardais la télé dans le temps des fêtes, puis j'ai vu un documentaire qui s'appelait « Le naufrage du Bernier et frères », qui raconte la pire tragédie maritime, une des pires tragédies maritimes de l'histoire de la navigation sur le Saint-Laurent, soit donc le naufrage d'une barge de bois dans les années 50 au large de Métis-sur-Mer. Et cette barge-là s'appelait le Bernier et frères. Et puis ça m'a intéressé parce que la mère de mon père était une Bernier et qu'elle aimait beaucoup les bateaux. Donc quand le reportage a été terminé, j'ai passé un coup de fil à mon père, je lui ai expliqué ça, puis je lui ai demandé tout simplement, « Papa, est-ce que ces Berniers-là étaient parents avec ta mère? » Puis il m'a dit, « Je ne sais pas, il faudrait que tu regardes dans son journal. » C'est là que ça a commencé. Je savais pas que mon père avait le journal de ma grand-mère. Quelques jours plus tard, il me l'a donné. J'ai ouvert ça et j'ai découvert que pendant 5 ans, ma grand-mère avait tenu son journal à tous les jours. Donc, du 1er janvier 1931 au 31 décembre 1935. Et là vraiment, j'ai compris que j'avais un trésor entre les mains parce que, bon, ma grand-mère, je l'ai connue, c'est sûr. Mais en plus, elle me racontait des choses sous un angle intéressant parce que les historiens de cette époque-là, c'était tous des hommes. Mm-hmm. Donc, d'avoir, dans le fond, le regard d'une femme sur la vie des années 30, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, c'est comme ça que ça a démarré. J'ai lu le journal, simplement, comme un roman au départ. Puis, à un moment donné, j'ai repéré dans ça un élément que j'ai trouvé super intéressant. En l'occurrence, une simple phrase dans laquelle ma grand-mère dit que ses amis considèrent que c'est quelqu'un de facilement impressionnable quand il y a du décorum. Que c'est une façon, dans le fond, de la faire tomber dans le panneau, de miser sur les apparences, sur un décor majestueux, etc. Et en faisant des liens avec d'autres choses dont elle parle, c'est comme ça que j'ai tricoté mon histoire, en fait. Mais faut comprendre que, bon, ce journal-là, en tant que tel, raconte beaucoup de choses, mais de manière très succincte. Donc, moi, je suis allé chercher un élément dans le journal, mais il y aura des tonnes d'autres histoires à raconter, en fait, avec ce personnage-là et ces événements-là.
Oui, parce qu'en fait, d'un côté, c'est comme vous le dites, un témoignage qui est précieux parce qu'on a peu d'occasion d'entendre ce type de vision-là d'une époque. Et parallèlement, parce qu'aussi, finalement, c'est une personne que si on la plaçait dans les années 2000, elle cadrerait bien dans la mentalité des femmes d'aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 30, elle était assez.
C'est-à-dire que c'est vrai que par rapport au standard des années 30, c'était une femme un peu rebelle, dans le sens que, bon, elle voulait pas se marier, elle voulait travailler, etc. Ça, c'était déjà carrément incroyable. Elle s'est mariée à 37 ans, alors que dans ces années-là, si à 25 ans, une femme n'était pas mariée, c'était vraiment une vieille fille. Mais, bon, de là à dire qu'aujourd'hui, elle cadrerait bien avec les valeurs, je suis pas certain. C'était quand même une femme qui allait à la messe, puis bon, qui était un peu conservatrice en regard de certains standards d'aujourd'hui.
Autour de certains éléments.
Mettons. Oui, c'est ça. Mais c'est clair que pour l'époque, c'était vraiment une femme engagée. Bon, déjà, faut réaliser que dans mon histoire, je la place en 1931. Là. Donc, dans les années 30, les femmes n'avaient pas le droit de vote au Québec. Ils n'étaient même pas considérées comme des êtres humains dans la Constitution canadienne. C'est Thérèse Cassegrain et les 5 autres suffragettes qui ont réussi à gagner ce combat-là en s'adressant au Parlement britannique plusieurs années plus tard. Donc, à la fin des années 40, si je ne me trompe pas. Donc, on est quand même presque 20 ans plus tard. Là. Donc, d'avoir une femme comme ça qui accepte de prendre la parole, qui accepte de dire non, parce qu'elle, évidemment, elle en a des demandes en mariage et elle les refuse une en arrière de l'autre. Tout ça, pour moi, évidemment, quand on le place dans le contexte de l'époque, c'est fantastique de voir ça. Pour moi, ma grand-mère m'est apparue comme un personnage de roman, en fait. Et c'est pour ça que j'en ai fait une bande dessinée.
Et Philippe Girard, vous mettez le doigt sur quelque chose aussi qui me semble extrêmement important. Faut le placer, justement, dans le contexte. Et donc, j'imagine que pour faire La Mauvaise Fille, pour faire cette section-là des années 30, il a fallu avoir une bonne recherche, d'abord documentaire, sur les lieux, les endroits, pour qu'on comprenne bien aussi dans quel contexte on se retrouve dans cette histoire-là.
Ouais, en fait, c'est l'élément que j'avais mal évalué au départ. Quand j'ai lu le journal, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, je fais une bande dessinée avec ça, c'est sûr. Puis là, j'étais emballé parce que je me disais, je vais parler de ma grand-mère, c'est fantastique, les années 30, la ville de Québec, tout ça, les reconstitutions historiques, ça me plaisait, mais j'avais pas évalué à quel point la ville de Québec, c'était autre chose dans les années 30. Là, on parle même pas de l'époque de Duplessis, là. La Grande Noirceur, c'est avant ça. C'est le Québec agricole, là, à l'époque où la ville de Québec, finalement, ça se résumait à ce qui se passe autour de la colline parlementaire, là. Il y a des quartiers qui ont disparu, un peu la base ville, puis bon, grosso modo, c'est ça, là. Ma grand-mère, à un moment donné, dans son journal, parle des vacances qu'elle prépare pour l'année d'après. Puis je vous en prépare ça pendant une année de temps. Là. Je me disais, bon, elle doit aller à Montréal ou à Toronto. Ben non, elle va juste à Saint-Apollinaire, l'autre bord du pont. Là. Donc, la notion des distances était carrément différente. Puis la ville était beaucoup plus petite que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc oui, il a fallu que je me documente en empruntant des livres à la bibliothèque. J'ai aussi eu l'album de photos de ma grand-mère, par contre, qui s'est avéré très précieux. Mais bon, j'ai parlé à des historiens. Je me suis ramassé aux archives de la ville de Québec, qui sont à la bibliothèque Gabriel-Leroy. J'ai passé pas mal de temps là-bas à chercher des photos. Mais bon, de fil en aiguille, j'ai réussi à réunir la documentation dont j'avais besoin. Mm-hmm. Puis bon, le reste, c'est ça. Ça s'est fait tout seul.
Et cette histoire-là, on la met en parallèle donc d'une autre histoire, on l'a mentionné, qui est mm-hmm. contemporaine, où c'est un peu votre avatar qui veut c'est offrir ça. À tout prix un Valentin à une fille, et qui est dans le fond peut-être un peu plus légère comme histoire pour mettre l'emphase, mettre en évidence, trancher un peu avec le ton de l'histoire de votre
grand-mère. Mais c'est pas pour trancher, c'est juste que bon, déjà un journal intime, ça le dit, c'est intime. C'est quelque chose qui est pas destiné à être lu par quelqu'un d'autre. Donc là, moi, je m'apprêtais, dans le fond, à dévoiler l'intimité de ma grand-mère. Ça, c'était déjà quelque chose... bon, c'est quand même ma grand-mère, là. Je veux dire, je l'aime, là. Je l'aimais. Donc, je me suis dit... Je me sentais pas les épaules assez larges, là, pour tout simplement commencer comme ça, en dévoilant comme ça l'intimité de ma grand-mère. Donc, j'avais besoin d'une façon d'introduire ça ou de faire une pirouette, si on veut, pour... je dirais pas jusqu'à dire pour me déculpabiliser, là, mais disons, au moins préparer le terrain. Puis c'est la raison pour laquelle, dans la première page, je pense que c'est la deuxième case, on voit une femme nue. Là, ça commence avec un cours de dessin d'observation dans une école, à l'École des arts visuels de Québec. C'est comme un avertissement, dans le fond, au lecteur. Là. Je m'apprête à mettre à nu l'âme de ma grand-mère. Et puis, donc, mon histoire, ça devenait comme le prétexte, si on veut, pour introduire celle de ma grand-mère. C'est vrai que le ton est plus léger aussi dans cette portion-là du récit, mais j'avais vraiment besoin de préparer le terrain, de mettre la table pour le récit principal.
Trouver un angle d'attaque, d'une certaine manière, qui est un peu, en fait, de ce que je percevais, un peu le sentiment amoureux, le fait d'aimer, qui devient un peu, d'ailleurs, le lien entre les deux histoires.
Oui, clairement, oui, c'est vrai que c'est ça, oui. Mais en fait, on pourrait extrapoler là-dessus parce que, bon, ma grand-mère, je l'ai aimée beaucoup. Elle aussi, elle m'a aimé beaucoup. C'est vrai que les deux histoires donc, qui sont dans le livre sont des histoires d'amour, entre guillemets. Mais moi, c'est ça, je pense qu'il y a moyen d'extrapoler.
Oui, puis le livre aussi qui est une histoire d'amour au bout du compte.
Voilà, c'est ça. Comme disait Cocteau, s'il n'y a pas d'amour dans l'écriture, ce n'est que de l'écriture.
Et j'imagine qu'il y a un peu deux publics dans un projet comme celui-là, quand on va raconter un peu l'histoire d'une partie de sa famille, il y a la famille et il y a le grand public qui va peut-être voir le récit de deux manières assez distinctes, ouais. Assez différentes.
En fait, ma famille réagit plutôt bien au livre pour l'instant, en tout cas, ceux qui l'ont lu. Donc, je suis très content, mais encore une fois, c'est pas le genre de choses auxquelles je pense quand je m'attaque à un projet de livre. Là, je suis toujours simplement mu par mes désirs, par mes pulsions, parce que j'ai envie de faire, en fait. Là. Puis ça a été vrai pour tous les autres projets que j'ai faits jusqu'à maintenant. C'est vrai pour celui-là aussi. On peut pas nécessairement, comme auteur, on peut pas tout le temps se préoccuper de ce que les autres vont dire. En fait, même c'est malsain de le faire.
Mais on se met des freins avant qu'il y en ait de vrais.
Ouais. Ben oui, je présume, là, mais encore une fois, je suis pas certain que c'est nécessairement une bonne chose pour un auteur de faire ça. Là. Le livre existe en lui-même, il faut simplement l'écouter puis le laisser s'écrire tout seul.
Et donc, c'est un récit qui est venu une fois que vous alliez trouver l'angle d'approche, que le travail historique était fait, la scénarisation de tout ça s'est fait quand même assez simplement ou c'est resté un casse-tête jusqu'au bout?
Ben, je dirais pas jusqu'à dire que c'était un casse-tête, parce qu'en réalité, j'avais donc ces deux histoires, celle de ma grand-mère et la mienne, qui étaient, en fait, c'est ça, c'est celle de ma grand-mère qui m'intéressait, là. Mais comme je vous dis, moi... Au départ, en fait, je me voyais me lancer dans ça, raconter l'histoire de ma grand-mère, mais dès les premières pages, j'ai bien senti que ça ne pouvait pas se passer comme ça, que les gens avaient en quelque sorte besoin de comprendre pourquoi je me lançais dans ça. Donc, j'ai fait un peu de rétro-pédalage, si je peux dire. Donc, je me suis dit, bon, comment introduire tout ça? Comment faire pour justifier, dans le fond, cette histoire? Et j'ai eu la chance de faire une résidence, en fait, d'auteur à Bordeaux pendant 2 mois, au moment où je travaillais sur ce récit-là. Et c'est là que ça s'est passé. C'est là que je me suis dit, bon, OK, on va penser à une manière d'expliquer ou en tout cas de donner des clés, si on veut. Et c'est toute la partie des clés, en fait, je l'ai dessinée quand j'étais à Bordeaux. Une partie de l'histoire de ma grand-mère aussi, là. Mais on dirait que le fait d'avoir pris du recul avec le lieu géographique où se déroulait l'histoire m'a permis aussi de prendre un recul scénaristique, si on veut.
Mais pour pas se retrouver à peinturer quelque chose dans lequel on est un peu trop dans le décor, on est un peu trop dedans, donc à un moment donné, faut prendre un petit recul.
Je sais pas, c'est simplement un état d'esprit, j'ai envie de dire. Ouais. J'étais comme ça bien disposé. C'est une période très heureuse dans ma vie. En plus d'avoir été là-bas, j'ai beaucoup... C'est un séjour que j'ai adoré. Bon, on y était en famille. Ma fille allait à l'école à Bordeaux, tout ça. Il y avait des amis aussi autour. Donc tout ça a fait que... c'est un ensemble de facteurs, en fait. Hein. Il y a beaucoup de mystères autour d'un livre, autour de la création du livre. Puis sans doute que si le contexte avait été différent, ben, le résultat aurait été différent aussi. Je peux pas l'expliquer autrement.
Alors, on découvre justement ce que vous avez découvert un peu, et on le mentionnait tout à l'heure, en fait, c'est un des éléments que vous avez retenu du journal. Il y en a d'autres aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aimerait éventuellement continuer à creuser?
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tout le monde me pose la question ces temps-ci, mais oui, je serais intéressé à continuer à... En tout cas, j'aurais déjà au moins une idée pour un autre livre avec ce personnage-là, le personnage de ma grand-mère. Je vais le faire quand? Très bonne question. Je pense que ce type de projet-là, il faut quand même l'alterner, ou en tout cas, il faut être capable de le ventiler avec d'autres choses pour prendre du recul encore une fois, puis bien placer les pions, etc. Là, tricoter l'histoire comme il faut. Donc, mais oui, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et comme je vous le disais, ce journal donc, que mon père m'a donné, là, il regorge d'informations et d'éléments qui pourrait amener à la création de nouveaux livres. Ça, c'est absolument certain.
Et quand on aborde un sujet qui est plus porteur de manière personnelle, que ce soit La mauvaise fille, que ce soit La visite des morts, qu'on mentionne au départ, est-ce que ça change un peu le ton, l'ambiance, justement, du travail?
Ouais, bonne question. En fait, je l'ai répété parfois... peut-être à outrance, mais j'ai toujours l'impression que l'histoire existe. L'histoire flotte autour de moi, en fait. Elle choisit de passer à travers moi pour s'écrire toute seule. Donc moi, récit plus personnel, récit moins personnel, je sais pas comment répondre à ça. Je trouve que tous ces récits sont personnels. Parfois, je choisis de me mettre en scène parce que c'est comme ça que je le sens dans ce moment-là, mais même les fictions, en fait, sont des histoires autobiographiques. On a juste à penser au Spirou de Franquin, ou même à... En fait, tellement d'autres exemples. C'est juste que l'auteur va se projeter tour à tour dans différents personnages, mais on est toujours caché derrière nos personnages. Alors moi, c'est ça, en fait. Donc, je sais pas comment vous dire ça. Là, je me dédouane pas par rapport à aucun des récits que j'ai fait. En fait, je suis toujours impliqué à 100% dans chacun de ces livres-là, même si je suis pas nécessairement l'un des personnages du livre.
Et on invite le public, dans le fond, les lecteurs, à vous découvrir à travers donc cette mauvaise fille, à travers ce dernier né. Donc, c'est disponible chez Glénat Québec. Philippe Girard, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et nous, on prend une courte respiration musicale. Dernier extrait de Ninja Academy. Et on vous rappelle, si vous voulez avoir plus d'informations autour de l'émission, il y a toujours également notre page Facebook, La vie en BD-CKRL 89.1. Et maintenant, dernière ligne droite de l'émission de cette semaine, et on a le plaisir d'avoir avec nous Marco Duchesne. Bonjour.
Salut Raymond.
Et de quoi tu nous parles ce mois-ci?
Écoute, je sais que tu m'invites pour faire une chronique de ce qui se passe en BD, mais ce soir, j'ai envie d'être salement égoïste et de parler de moi. Voilà. Mais ça va peut-être vous faire me faire connaître un peu auprès de toi et des auditeurs par via la BD. Alors, je ne parlerai que de choses que j'aime. D'abord, j'aimerais ça te dire comment je suis content que depuis quelque temps, j'ai une passion en BD pour la BD, mais j'ai un grand coup de cœur pour les super-héros. Je lis ça depuis que je suis tout petit. Les Fantastic Four sont mes premiers héros en BD que je lisais assidûment en français. Héritage est publié en noir et blanc. J'avais les 170 premiers numéros. Écoute, j'ai touché un fan, c'est fini. Alors, je me suis remis il y a quelques années et je suis très content de te dire que je peux constater que les Français ont décidé de mettre l'épaule à la roue pour nous donner un produit intéressant.
Donc, en version française.
En version française. Panini, depuis que, évidemment, tout ça est à cause de la charrette ou de la locomotive des super-héros au cinéma, qui a, on a eu droit à de bons films, quand même, mm-hmm. Qui a donné un bon coup de pouce pour les comics. Et les Français, Panini, entre autres, avait les versions françaises, se sont mis à publier, quand même, des histoires intéressantes, des recueils d'histoires intéressantes par des bons artistes, de rendre ça un peu accessible. Alors, on a le droit à des toutes les histoires de des personnages qu'on voit sur nos écrans. Il y a Iron Man, les Avengers, Captain America. Et à des prix quand même raisonnables. Ils ont baissé un peu leur prix. Donc, un peu plus de choix à des meilleurs prix. Accessible en français. Mais récemment, Dargo a acheté les droits pour DC Comics. Alors, ce nouveau label, cette nouvelle maison d'édition s'appelle Urban Comics et va publier les personnages et les héros de DC. Et là, ils ont choisi d'y aller avec la nouvelle vague. Je ne sais pas si on t'a déjà raconté, les autres chroniqueurs sont déjà passés. Je sais que Sam Murdoch, entre autres, est chroniqueur ici, t'ont sûrement raconté et raconté à tes auditeurs que DC avait fait décidé de mettre la pendule à zéro.
Oui, de repartir et de zéro, réinventer les...
On a appelé ça le New 52, les nouveaux 52. Et ils ont décidé de repartir à zéro. Depuis un an, ça roule. Et le résultat est quand même intéressant.
Oui, en fait, c'est selon les... Il y en a tellement qu'on réussit à trouver notre chance.
Voilà. Et les Français, Urban Comics, repart de là.
Ah, ben.
Donc, on va avoir droit en français à tout ce New 52, à tous ces numéro 1 dans toutes les personnages. Donc, Justice League, Batman, et c'est déjà commencé. Vous allez voir Superman, de très beaux produits. Au prix compétitif, là, autour de 25-26 $ là, pour les bonnes histoires.
Et je me demandais la traduction, justement, on disait, est-ce que c'est franchouillard ou c'est...
Pour Panini, ils se sont rattrapés. Et pour DC, quand même, ça passe. Ça passe, je te dis, il y a un bon travail de fait et une bonne volonté de vouloir me donner un bon produit. Mmh. Entre autres, j'ai été très content de voir... il y a les Batman, je suis un fan de Batman, mais il y a aussi, ils nous ont publié le Wonder Woman Odyssey, l'Odyssée de Wonder Woman, qui est en deux tomes là en ce moment à la librairie. On a reçu le tome 2 avant le tome 1, c'est un peu bizarre, mais bon, ça va se rectifier. Et l'histoire qui était racontée par Michael G. Stravinsky, celui qui a fait Babylon 5 entre autres et tout, a raconté une bonne histoire en deux tomes sur Wonder Woman en leur remettant la pendule à zéro. Le truc facile, c'est qu'elle a perdu la mémoire, son aventure va lui permettre de revenir à ce qu'elle était là, mais vraiment bien dessiné. Écoute, et on va avoir droit, Urban Comics nous fait des rééditions des trucs majeurs. Watchmen, okay. V pour Vendetta s'en vient. On va avoir droit à les bons trucs de Batman là, entre autres Dark Victory vient d'être de paraître. Bref, tout ça est à un bon élan. Et je pense que ça va être le fun parce que Batman s'en vient au mois de...
Ben oui, en fait, c'est très attendu. Il y a Avengers qui vient de sortir il y a quelques
Spider-Man
semaines.
Dans une couple de semaines.
Le donc, reboot aussi. Donc
voilà. Et comme je te dis, c'est une belle occasion de peut-être goûter à ça et se replonger dans des trucs d'enfance peut-être qu'on avait oublié puis avec le cinéma. Là.
Oui, puis de voir où c'est rendu aussi.
Oui, oui. Puis il se fait de bons trucs côté mais puis l'Urban Comics va avoir le label DC, va avoir la collection Vertigo qui est une collection chez DC de comics pour adultes avec des histoires comme Fable, le monde de Fable et le monde des contes. Alors c'est tous les Blanche-Neige, Cendrillon dans une même et unique ville avec des espèces de complots à la 24, avec des espèces de complots. Jack et le haricot magique est un espèce de tenancier de Las Vegas qui, en bref, tout ça dans un monde réel là, vraiment à explorer puis à découvrir chez Urban Comics.
Alors voilà, ça c'est chez Dargo, donc les comics américains en version française.
Voilà, qui débarque. Ma deuxième, j'ai récemment, je me suis mis à lire l'histoire de la BD. Ben, pas pas rien que l'histoire, c'est-à-dire que je lis des histoires de BD et des livres sur la BD depuis des années. Mais là, j'ai comme eu le goût de découvrir le comic strip du début du 20e siècle. C'est-à-dire les Américains avec Fisher pour Jeff Emmott, avec Cigar pour Popeye, entre autres. Fantagraphic vient de publier le dernier tome qui conclut l'intégrale des Popeye jusqu'aux années 30, fin 30, début 40. Et je te le dis, c'est mon héros préféré. C'est le premier super-héros et c'est mon héros préféré. On voit tous les quotidiens en noir et blanc avec les Sundays. Les Sundays, c'est les pages complètes du dimanche là en couleur. Écoute. Et j'ai vraiment une passion pour le début du siècle, du 20e siècle, pour le comic strip, avec aussi Franck du côté de Dwa and Quarterly, la maison d'édition de BD anglophone canadienne.
Ouais,
c'est ça. Qui, elle, fait Frank King, qui avait créé Gasoline Alley dans les années 20 avec son personnage Walter et Squeezie. Je te dis tout ça parce que tout ça est très peu accessible en français. Et dans mon exploration, j'ai fait une petite découverte en même temps que vous. Cette semaine est rentré un truc, une exposition d'un Britannique. Ben oui, les Britanniques faisaient aussi du comic strip.
Tout le monde en faisait.
Oui, et c'est ça qui est plaisant de découvrir les autres mentalités, oui. Les autres. Alors, H.M. Bateman est un cartooniste britannique qui a œuvré pendant les années 10 jusqu'à 30, et il faisait des BD d'une page, deux pages dans un journal sans texte. Donc, facile d'accessibilité. Mm-hmm. Et ça s'appelle, c'est Actes Sud qui fait la version française du catalogue, une espèce de recueil des meilleurs moments. Et ça s'appelle Mimodrame. Mimodrame parce que les personnages ont l'air à vraiment être des mimes. Les personnages sont en noir et blanc, la BD est en noir et blanc, et les personnages sont très pantomimes. Et ça raconte du quotidien, mais burlesque. Ça a un humour très british, pince sans rire. Les personnages sont très théâtraux, comédiens, un peu à la Will Eisner.
Donc vraiment comme un film muet, un film d'animation muet de l'époque.
Tu peux voir, je te montre à travers la fenêtre, on voit les personnages, un personnage un peu celui qui vive. Et ça donne un peu les films, effectivement, comme les films muets. C'est un peu spécial, mais ça vaut la peine de, si jamais l'historique vous intéresse à explorer. C'est chez Actes Sud, ça s'appelle Mimodrame, et c'est les BD, les planches de H.M. Bateman.
Et question, Marco, avant de terminer, est-ce que les éléments justement des années 20 ou les mimodrames comme ça, est-ce que ça reste simplement une curiosité ou est-ce que l'amateur de BD va trouver un réel plaisir? Là?
Merci de cette question. Le réel plaisir, écoute, c'est de découvrir non seulement ce personnage. Là, je vais te prendre l'exemple de Popeye rapidement. Popeye, quand j'ai relu ça, j'adorais de voir le strip, de voir comment graphiquement ce que faisait Seeger à l'époque. Bon, et aller lire, on découvrait non seulement que Popeye est un super-héros, mais c'est un humanisme fini. Je lisais ça, puis à un moment donné, dans la deux ou troisième année, Popeye a une agence de détective, rien que te dire, et il gagne $50,000. Alors, il met ça à la banque, il y a un petit problème de jeu Popeye, mais grâce à Castor Oil, un de ses associés dans son affaire de détective, il peut pas sortir d'argent. Alors, il visite, comme ça, par hasard, un quartier pauvre, et il lui vient l'idée d'ouvrir, il y a un concept, la banque, la one-way bank, c'est-à-dire qu'il va offrir son argent, tout ce qu'il a gagné, toute sa fortune, il l'offre aux pauvres. Alors, à découvrir ces vieux comics, on voit un peu dans quelle réalité ils étaient, et on se découvre que c'était pas si loin de notre réalité à nous. Et il y a bien des exemples à prendre.
Alors ben voilà, on fait des débats peut-être à poursuivre des années 30 à aujourd'hui. Alors ben Marco Duchesne, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, dernière de la saison, on aura notamment les chroniques de Stéphane Gravel et Michel Giguère en entrevue la gang de Zidara 9 et plus. Alors soyez là, c'était Raymond Poirier au micro, ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine.